Invité du grand entretien, Pascal Lamy, bonjour.
Bonjour.
Ancien commissaire européen en charge du commerce, ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Vous avez longtemps travaillé aux côtés de Jacques Delors. Vous avez été un soutien assez précoce d'Emmanuel Macron avant même son élection. Pascal Lamy, aujourd'hui, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, se rend à Washington pour parler commerce avec Donald Trump. Donald Trump dit de Jean-Claude Juncker, c'est un tueur brutal. Il aime ces négociations d'homme à homme. Est-ce que ça veut dire que la stabilité du commerce mondial se joue aujourd'hui entre ces deux messieurs, Trump et Juncker ?
Bon, ce serait peut-être aller un peu loin, mais en tout cas, c'est une rencontre importante, dont on ne sait d'ailleurs pas du tout ce qu'elle va donner, ce qui est assez rare dans ce grand... En général, ce genre de rencontre internationale est assez précuit par des tas de collaborateurs.
Par les Sherpas.
Voilà, c'est ça. Qui pondent des communiqués soigneusement rédigés. Là, on ne sait pas très bien. Et ça tient moins à Jean-Claude Juncker, qui est un homme assez raisonnable, finalement, très à l'européenne, hein, un produit des lumières de la démocratie chrétienne luxembourgeoise. Donc, c'est plutôt un calme. Et puis, en face, cette espèce de volcan, là, qu'on ne sait pas très bien comment prendre, parce qu'il est très imprévisible. Pourquoi cette rencontre ? Essentiellement parce que les questions de commerce international... depuis très très longtemps, depuis le traité de Rome, sont gérés au niveau de l'Union. Ce ne sont pas les États membres de l'Union qui négocient ou qui appliquent les règles du commerce international, c'est l'Union européenne, c'est une compétence fédérale en quelque sorte. Et donc c'est la Commission européenne qui est chargée...
Qui a mandat
et elle l'exerce, et dans la négociation et dans l'exécution, l'administration des règles du commerce international, sous la surveillance du Conseil des États et du Parlement européen. Donc, c'est Juncker, le bon interlocuteur de Trump.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Pascal Lamy, ce qu'il doit négocier avec Donald Trump ?
Alors,
Sur quoi vont porter les discussions ?
Je crois qu'il y va essentiellement, et c'est là que c'est risqué, d'un certain point de vue, avec un Olibrius pareil, il y va essentiellement pour essayer de faire entendre raison à Trump. Pour lui expliquer que sur la plupart des sujets, il se trompe, même s'il se trompe pas sur tout. Il se trompe quand il pense que le déficit commercial américain est un problème. Ça fait 30 ans que ça dure, ça n'a jamais causé de problème sérieux, à commencer par l'économie américaine, qui s'est toujours plutôt bien portée. Il se trompe quand il pense que ce qui est important dans le commerce international, c'est les droits de douane. L'essentiel du commerce, des progrès du commerce international aujourd'hui, ça se fait plutôt dans les services que dans les produits manufacturés. Mais ça, Trump n'a pas l'air de concevoir que dans les échanges internationaux, maintenant, si vous regardez en valeur ajoutée, il y a plus de services que de manufactures. Donc, il va essayer de lui expliquer, je crois, que cette espèce de phobie qu'il a, par exemple, avec les Européens sur les voitures, ça fait pas de sens. Trump est obsédé par le fait que il y a plein de Mercedes à New York et il n'y a pas de Chevrolet à Berlin.
En même temps, les électeurs de Trump, ce sont les ouvriers des usines de Détroit.
Pas tout à fait, mais dans une certaine mesure, vous avez raison. Mais les raisons pour lesquelles il n'y a pas de Chevrolet à Berlin et il y a plein de Mercedes à New York n'ont rien à voir avec des questions de droits de douane. C'est simplement que les consommateurs américains aiment bien les bagnoles allemandes et que les consommateurs allemands n'aiment pas les bagnoles américaines. Bon, ça, il faut qu'ils comprennent que de ce point de vue-là, il fait fausse route. Par contre, il y a des points sur lesquels Trump n'a pas tort.
Par exemple,
quand il dit que les règles du commerce international aujourd'hui ne disciplinent pas assez un certain nombre de pratiques chinoises, que la concurrence avec les Chinois est en partie faussée parce que les règles du commerce international sont insuffisantes. Là, il n'a pas tort. Et c'est là, d'ailleurs, que Juncker doit essayer de persuader Trump que les Européens et les Américains...
Ils peuvent faire front commun contre la Chine.
Absolument.
Par exemple, sur les questions de propriété intellectuelle.
Absolument. Et je pense que si Juncker arrive à lui dire « Écoute, Donald, il n'y a pas de gros problème transatlantique entre nous. Par contre, si on se met ensemble... pour pousser pour que la Chine accepte des règles plus contraignantes, alors tu auras eu raison, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Juncker, avant d'aller voir Trump cette semaine, est allé à Pékin la semaine dernière et a obtenu des Chinois des signaux relativement encourageants sur le fait que si on se met autour de la table, non pas en bilatéral, parce que c'est pas là le problème, mais avec les Japonais, les Américains, les Européens et les Chinois, pour améliorer un certain nombre des règles du commerce international, alors là, Trump pourra dire, finalement, j'ai gagné.
Oui,
et
sauf
après
que...
tout, comme c'est ça qui compte pour lui,
sauf
pourquoi
que
pas.
Trump n'aime pas trop le multilatéral, il préfère le bilatéral. Quel est le plus mauvais scénario pour les Européens ? C'est que les États-Unis et la Chine se fassent une guerre commerciale ou au contraire qu'ils s'entendent tous les deux sans les Européens ?
Je pense qu'il y a peu de chances pour qu'ils s'entendent sur le dos des Européens et toute la stratégie européenne, en gros depuis 3 mois, et on l'a vu au moment des réunions de l'OCDE, on l'a vu au moment du sommet de G7, on l'a vu avec cette visite de Juncker à Pékin la semaine dernière, c'est au fond d'établir un triangle dans lequel il y a l'Europe, les États-Unis, la Chine, et l'Europe est avec les États-Unis pour faire pression sur la Chine quand il faut, et est avec la Chine pour faire pression sur les États-Unis quand il faut. Donc au fond, c'est une Europe peut-être plus indépendante, à la fois des Américains et des Chinois, mais qui peut jouer son rôle, et elle peut jouer son rôle pourquoi ? Parce que elle pèse le poids de son économie.
C'est la première zone économique du monde, l'Union européenne.
Et c'est à ce titre qu'elle est au fond assez légitime à être un des pôles de ce triangle.
Ça veut dire que d'une certaine façon, Trump est une chance pour l'Union européenne ?
C'est une manière de voir les choses. Si vous regardez l'histoire de la construction européenne depuis 60 ans, elle a souvent plus progressé sous la pression externe, avec des défis mondiaux, que parfois dans des discussions internes qui sont souvent un peu lentes et un peu compliquées. Ce qui s'est passé avec le vote du Brexit a créé un réflexe sur le continent dont on voit les résultats maintenant. Trump, Poutine, Erdogan, tout ça c'est pas très loin. Et ce sont des sujets qui font que les Européens se rendent peut-être compte que... L'Union européenne est une espèce d'assurance géopolitique et que dans ces cas-là, il vaut mieux serrer les coudes. Et en matière commerciale, c'est absolument évident que c'est au niveau de l'Union que ces questions doivent se traiter.
On va évoquer le Brexit dans quelques minutes, Pascal Lamy. Il y a une autre réunion très importante qui commence aujourd'hui et qui va se poursuivre jusqu'à vendredi. C'est celle des BRICS, les pays même plus émergents, émergés. Le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde qui se retrouvent en Afrique du Sud à Johannesburg. Est-ce que c'est pas intéressant de regarder aussi comment ça se passe entre ces pays qui ont pourtant des intérêts extrêmement divergents? On pourrait rajouter la Turquie dans cette liste de pays. La façon dont ils travaillent entre eux. Il y a un dossier très intéressant dans l'Humanité aujourd'hui qui nous parle des BRICS. C'est un exemple à surveiller, ces pays qui nous sont peut-être moins familiers ?
Non, ça pourrait être intéressant s'il s'y passait quelque chose. En réalité, il ne s'y passe pas grand-chose.
Au sommet, vous voulez dire ?
Oui.
Ou en général ?
Dans cette alliance entre la Russie, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, qui est au fond un produit de la guerre d'Irak, parce que ce club est un club qui s'est constitué pour renouveler cette idée d'un non-alignement.
C'est les non-alignés,
voilà,
c'est Bandung version XXIe siècle.
Absolument, sauf que par exemple, il manque l'Indonésie, il manque le Mexique, il manque la Turquie, qui sont quand même des gros poissons dans les pays émergents.
Bon, Erdogan y sera.
Donc c'est un club, mais jusqu'à présent... Vous l'avez dit à l'instant, à mon avis, à juste titre, leurs intérêts sur l'essentiel des sujets sont très différents, en dehors du fait qu'aujourd'hui, une fois de plus, les redemandades de M. Trump donnent un certain espace à ceux qui disent « il faut organiser le monde autrement que sous leadership américain ». Et de ce point de vue-là, peut-être M. Trump redonne-t-il en quelque sorte à ce club des pays émergents un lustre qu'il avait... pas vraiment réussi à obtenir par lui-même.
Dans 5 minutes, on sera au standard au 01 45 24 7000. On va évoquer donc le Brexit. Theresa May décide de négocier directement avec Bruxelles les conditions du Brexit. Elle défend un Brexit soft contre un Brexit dur, un tough Brexit. Qu'est-ce que c'est un Brexit dur ? Qu'est-ce que ce serait ?
Un Brexit dur, c'est en mars 2019. Les Anglais qui sortent sans filet de sécurité. C'est-à-dire, ils sortent de l'Union et tout ce qui devra se passer par la suite n'est pas négocié. Et donc, sur le plan commercial, ça a des conséquences immédiates. C'est-à-dire que non seulement vous sortez du marché intérieur et de l'union douanière, mais vous vous retrouvez comme un pays avec lequel l'Union européenne n'aurait pas d'accord commercial. Donc, les Anglais se retrouvent avec le régime OMC, qui est le plus petit commun dénominateur entre les pays de cette planète, en dehors de ceux qui n'y sont pas, comme la Corée du Nord ou l'Algérie. Mais l'essentiel des règles du commerce international pour tout le monde, c'est les règles de l'OMC. Simplement, il se trouve que les règles de l'OMC prévoient, par exemple, que les Européens pratiquent un tarif sur un certain nombre de marchandises ou n'ouvrent leur marché de services qu'à un certain nombre de conditions. Donc, c'est ce qu'on appelle le crash. Ce serait très dommageable pour l'économie britannique et accessoirement probablement pas bon pour nous parce que si c'est pas bon pour eux, si c'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour nous. La proportion est très différente. Il n'empêche que c'est quelque chose qu'il faudrait essayer d'éviter. Mais disons, plus le temps passe, plus cette hypothèse qui paraissait absurde.
Il y a un d'un an, Brexit dur.
Ouais, parce que c'est vraiment complètement irrationnel. Mais si et c'est le cas aujourd'hui, si au Parlement britannique, compte tenu des divisions des forces politiques britanniques, il n'y a pas de majorité pour une solution raisonnable, la solution déraisonnable risque de s'imposer. J'espère que dans ce cas-là, au dernier moment, il y aura probablement la négociation d'un délai supplémentaire pour négocier.
Et à rebours, une tribune aujourd'hui dans le Figaro, l'Europe doit éviter un Brexit dur, signé par exemple de Jean Pisani-Ferry, qui explique en quelques mots qu'un Brexit soft, ça pourrait être l'avenir du multilatéralisme. Vous croyez à cette théorie ?
Non, Jean Pisani-Ferry est un ami très proche.
Et mais vous êtes philosophiquement assez proche, généralement.
Tout à fait. On est d'accord sur plein de choses. Mais là, je le trouve un peu angélique. Et surtout, je trouve qu'il ne voit pas juste quand il pense que ça dépend de Bruxelles. Aujourd'hui, un Brexit hard ou soft, ça dépend pas de Bruxelles, ça dépend de ce qui se passe à Londres.
Du Parti conservateur britannique.
C'est entre eux qu'ils sont pas d'accord, c'est entre eux qu'ils doivent négocier, et cette opération finalement assez chirurgicale qui consiste à sortir l'œuf britannique de l'omelette européenne, c'est pas vraiment une négociation, c'est une opération de chirurgie qui doit se faire dans les meilleures conditions possibles. Pour l'instant, le problème n'est pas à Bruxelles. Les Européens ont toujours dit depuis le début ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de changer les règles de l'Union sous prétexte que la Grande-Bretagne serait un pays tiers spécial. La Grande-Bretagne veut sortir de l'Union, elle devient un pays tiers. Ce qui est parfaitement acceptable, c'est des deals, des négociations, comme on en a avec le Canada, voire même avec la Norvège, avec la Suisse, avec le Japon. Et là, les marges de manœuvre sont parfaitement identifiées. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est un trou noir de la politique britannique. Et c'est là que j'ai un peu peur.
Sortir l'œuf britannique de l'omelette européenne, sachant qu'on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Il est 8h34.
France Inter, le 6-9 de l'été, intervenez.
Vous intervenez au 01 45 24 7000. Beaucoup d'appels pour Pascal Lamy. On écoute Catherine. Bonjour Catherine.
Bonjour. Écoutez Monsieur Lamy, je suis assez confondue. Quand j'entends, pourquoi doit-on subir les lois américaines concernant les transactions en dollars dans le monde entier ? Nous sommes la première puissance européenne. Peut-on ne pas exiger que ces transactions internationales, tout au moins une partie, soient faites en euros. Doit-on subir les lois américaines en ce qui concerne l'Iran, par exemple, qui nous interdisent, si on commerce avec l'Iran, on continue à commercer en dollars avec l'Iran, ils nous interdisent le marché américain. Est-ce que l'on ne peut pas faire la réciproque alors que nous sommes la première puissance européenne ?
Merci
ça,
beaucoup.
Je ne peux pas comprendre.
Merci de votre question, Catherine. Pascal Lamy, on explique en quelques mots. Le dollar, c'est la monnaie internationale pour le commerce. Donc, si on commerce avec l'Iran, ça se fait en dollars et les États-Unis, là, nous tapent sur les doigts et nous mettent à l'amende. Pourquoi on ne commerce pas en euros avec les grands pays du monde ?
C'est une très bonne question et je partage tout à fait ce que je sens d'indignation ou d'incompréhension dans cette question. Et vous avez à l'instant donné la réponse. Il se trouve qu'aujourd'hui, le dollar est la monnaie de transaction internationale et que si vous voulez investir ou faire commerce au plan international, inévitablement, vous avez recours au dollar.
Et pourquoi c'est inévitable ?
Et c'est là que les Américains ont un moyen de pression. Alors, pourquoi est-ce que ça a été inévitable jusqu'à présent ? Parce que dès que vous faites une opération financière, même en euros, à un moment, vous avez besoin de passer par le système de paiement international et notamment par New York, comme d'ailleurs vous avez en général l'obligation de passer par Londres ou par Francfort. Ce sont des systèmes qui sont en réseau, et vous ne pouvez pas isoler une partie du réseau. Mais, je trouve, et là-dessus je suis d'accord avec notre auditrice,
Catherine,
je trouve que cette fois-ci, si les Américains nous recollent des sanctions sur l'Iran, ce qu'ils vont faire, alors que c'est un deal qui a été béni par le Conseil de sécurité des Nations Unies, nous devons envisager d'aller plus loin que les fois précédentes. Et notamment, par exemple, de concevoir un véhicule uniquement en euros qui n'aurait pas besoin de passer par les réseaux qui font le dollar, même si ceci ne pourrait concerner qu'une partie limitée des échanges. Par ailleurs, il va falloir un jour, à mon avis, poser au plan international, c'est-à-dire devant la Cour de justice de La Haye, qui règle les grands conflits entre les États du monde, cette question des sanctions américaines. Il n'y a pas de raison qu'un pays ait une puissance extraterritoriale aussi forte que celle des États-Unis. Ça n'a pas toujours été appliqué à mauvais escient, mais vous avez raison, si l'Europe veut exister et devenir en quelque sorte plus souveraine au plan international, alors nous devrons trouver des instruments qui nous permettent d'éviter d'être en permanence obligé par le dollar. Et ça consiste à améliorer le statut de l'euro et aussi à diversifier le système monétaire international. Et c'est encore un des points sur lequel les Européens et les Chinois, par exemple, pourraient travailler ensemble.
Il est 8h37. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Pascal Lamy vous écoute.
Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de citoyens qui s'expriment contre le TAFTA, le CETA, etc., qui sont des accords bilatéraux. Comment on peut faire pour que le cadre multilatéral qui existe aujourd'hui, l'OMC, soit légitime pour pouvoir avoir des accords commerciaux plus partagés?
Vous voulez dire, Mathilde, que l'OMC devienne une sorte d'organisation des Nations Unies commerciales?
Pourquoi pas?
Pascal Lamy vous répond. Merci, Mathilde.
Bonjour. Eh bien, c'est ce qu'elle est. En fait, si on voulait donner un vrai nom à l'Organisation mondiale du commerce aujourd'hui, on dirait effectivement c'est l'ONU du commerce. C'est à peu près les mêmes membres. Et c'est une organisation globale qui a vocation à organiser au plan multilatéral les règles du commerce international. Simplement, ce qu'il faut voir, et c'est le cas depuis une cinquantaine d'années, c'est que si vous voulez mettre d'accord le Bangladesh, la Suède, le Costa Rica et le Botswana sur les règles du commerce international, vous allez avoir du mal. Ce sont des pays de niveaux de développement très différents, dont ce qu'on appelle les préférences collectives en matière, je sais pas quoi, par exemple, de bien-être des animaux sont très très différentes, et ça influe sur les règles du commerce international. Bon. Et donc, inévitablement, ce système multilatéral, c'est le plus petit commun dénominateur. C'est ce qu'on a tous ensemble, mais il faut, dans un certain nombre de cas, on peut faire mieux, et c'est là qu'on passe au bilatéral. Le bilatéral...
Donc c'est censé être un mieux disant,
absolument.
Le bilatéral.
Vous avez le premier étage, qui est le système OMC, et puis vous pouvez monter au deuxième étage ou au troisième étage, selon ce que vous voulez donner comme préférence particulière à tel ou tel pays.
Mais c'est la question de Thierry. Comment tenir compte des problèmes environnementaux, sociaux? C'est aussi la question de Jean-Pierre qui nous dit: que pensez-vous des accords passés avec le Canada concernant l'importation de tonnes de viande alors qu'on a ce qu'il faut en France? Ils sont vraiment bons, ces accords bilatéraux, pour notre santé, pour nos éleveurs, pour nos industries?
Dans le cas européen, qui est celui qui, je crois, nous préoccupe, oui, parce qu'ils sont négociés avec des contreparties. Si l'Europe, dans un certain nombre de cas, accepte d'importer plus de viande canadienne, c'est en contrepartie du fait que les Canadiens vont importer plus de fromage ou plus de vin européen. Et ça, c'est bon pour les Européens. Ces accords sont toujours négociés avec des contreparties.
Et c'est pas de la viande gavée d'antibiotiques.
C'est pas de la viande gavée d'antibiotiques, parce que si c'est de la viande gavée d'antibiotiques, elle passe pas la frontière européenne. La frontière européenne aujourd'hui, c'est d'abord une frontière réglementaire. C'est pas essentiellement une frontière tarifaire, c'est une frontière réglementaire. On vérifie que ce qui protège le consommateur dans la législation européenne est appliqué par les produits que nous importons. Alors, c'est pas toujours parfait, parce que parfois, c'est comme dans tous les systèmes de contrôle, il peut y avoir des trous. Mais disons, nous devons rester, de mon point de vue, dans un système à deux étages. L'étage de base, qui est l'Organisation mondiale du commerce, et un étage bilatéral, qui s'ajoute à celui-là, et c'est là d'ailleurs que Trump est dangereux, parce que ce que Trump veut faire, c'est casser le premier étage,
C'est du bilatéral de bas niveau.
Et voilà, et ne faire que du bilatéral, sous prétexte, pense-t-il, que les Américains ont des gros bras et des muscles commerciaux supérieurs à celui des autres. Et c'est là qu'il faut l'empêcher. Et c'est là que, au fond, la visite de M. Juncker à Trump aujourd'hui peut avoir son importance. Parce qu'on est sur quelque chose qui est essentiel dans l'organisation du monde et pas seulement en matière économique.
Dernière question d'auditeur. Stéphane, un fidèle, bonjour.
Oui, bonjour. Un fidèle, oui. C'est un petit clin d'œil puisqu'il y a un an, j'avais profité de votre antenne pour poser une question à M. Pascal Lamy sur le fait qu'il y avait-il une compatibilité entre les échanges internationaux qui polluent avec les avions, les bateaux, ainsi de suite. Alors là, vous vous dites que c'est bon pour l'économie. Il faudrait peut-être aussi se poser la question, est-ce que c'est bon pour l'homme, sachant que la Scandinavie est en train de brûler, que la Grèce est en train de brûler, que la pollution est en train d'exploser à Paris. Mais c'est, selon M. Pascal Lamy, l'année dernière, j'avais attendu la réponse, je ne l'ai pas beaucoup entendu. J'espère que cette année, un an plus tard, on commence à se poser un peu des questions. Et je finis toujours par un peu la petite même phrase. Il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini. À partir de là, il faut pouvoir mettre des limites à notre consommation et donc nos échanges internationaux, forcément.
Merci Stéphane. Et à dans un an, donc, Pascal Lamy vous répond pour votre saison 2 sur Inter.
Non, non, je vous réponds bien volontiers. S'il y a un endroit dans le monde où on se préoccupe davantage qu'ailleurs de rendre compatibles les règles du commerce international et les règles d'environnement ou les règles sociales, c'est en Europe. Simplement, c'est pas nous qui décidons pour le monde et tout ça doit être négocié. Mais vous avez raison, il faut améliorer la relation entre les règles environnementales et les règles commerciales, même si, depuis 10 ou 20 ans, ce sont les règles de l'OMC qui se sont adaptées aux disciplines qui ont été instaurées au plan international, et notamment sur le changement climatique, mais c'est aussi vrai sur la biodiversité. Il y a, dans les accords environnementaux globaux, des tas de dispositions qui contraignent aujourd'hui les échanges commerciaux internationaux. Prenez par exemple le commerce des produits chimiques. Le commerce des produits chimiques est régulé par une organisation environnementale spécifique, et ce sont les règles du commerce international qui se sont adaptées. Donc je ne dis pas du tout qu'on est à la fin de ce chemin. Ce qu'il faut, c'est continuer à pousser dans cette direction. Et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, on a plutôt envie que les Européens et d'autres s'allient, parce que si aujourd'hui quelqu'un essaie de casser ce lien entre l'environnement et le commerce, c'est plutôt à Washington que ça se passe. Et c'est là, encore une fois, que la rencontre d'aujourd'hui peut avoir son importance.
Pascal Lamy, merci d'avoir été l'invité du Grand Entretien de France Inter. Merci aux nombreux appels des auditeurs. Très bonne journée à vous et très bel été.